RCF.
Vous écoutez RCF, il est 7h30. Le journal vous est présenté par Pauline de Torsiac. Bonjour.
Bonjour Delphine, bonjour à tous. Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert hier au pass vaccinal. Il entrera en vigueur lundi. Un seul point est retoqué, la possibilité pour les organisateurs de meetings politiques de demander un pass sanitaire aux participants. Russes et Américains tentent le dialogue raisonnable sur fond de bruit de bottes à la frontière ukrainienne et menaces de guerre froide. Russes et Américains se sont rencontrés hier à Genève. Les discussions doivent se poursuivre la semaine prochaine. Saint-Irénée, décrété docteur de l'Église hier par le pape François et plus précisément docteur de l'unité. Tout un symbole en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La décision était attendue, elle est désormais officielle. Le Conseil constitutionnel a donc validé hier après-midi les principales dispositions du nouveau pass vaccinal. Dès lundi, celui-ci s'appliquera donc à toutes les personnes âgées de plus de 16 ans. On fait le point tout de suite avec Margot Emmerich.
Son instauration définitive restait en effet suspendue à la décision du Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés et une soixantaine de sénateurs de l'opposition. Tous dénonçaient un dispositif portant atteinte aux libertés fondamentales sans pour autant avoir prouvé son efficacité pour freiner l'épidémie. L'argument n'a donc pas suffi à infléchir la décision des sages du Conseil, qui ont jugé au contraire que l'essentiel du projet de loi poursuit bien l'objectif inscrit dans la Constitution de protection de la santé. Conséquence, vous l'avez dit, à partir de lundi, le pass vaccinal sera nécessaire pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux lieux culturels ou encore aux transports publics interrégionaux. En revanche, seule exception, les meetings politiques pour lesquels le Conseil constitutionnel a censuré la possibilité pour les organisateurs de demander un pass sanitaire aux participants, les réunions publiques disposant d'un statut à part garanti par le droit constitutionnel. En pleine campagne présidentielle, les organisateurs pourront cependant, je cite, prendre toutes les mesures de précaution utiles telles que la limitation du nombre de participants, la distribution de masques ou encore l'aération des salles.
À noter que des manifestations anti-pass sont prévues aujourd'hui, une partie des centres-villes de Marseille, Montpellier et Nancy, mais aussi le centre d'Angers, seront donc interdites à ces manifestations après des décisions des préfectures locales. La Haute Autorité de Santé donne son feu vert à l'utilisation de l'antiviral Paxlovid comme traitement curatif contre le Covid-19. Les premières livraisons sont attendues en France d'ici quelques jours. Après les magasins Leclerc, Lidl a décidé, lui aussi, de proposer une baguette à 29 centimes. Jean-Édouard Leclerc veut bloquer ce prix pendant au moins 4 mois en raison de l'inflation. Sauf que d'après l'INSEE, le prix moyen d'une baguette est à 90 centimes. Alors l'annonce a mis en miettes, c'est le cas de le dire, les artisans boulangers et toute la filière céréalière qui dénoncent dans un communiqué une campagne destructrice de valeur pour tous les maillons de la filière. C'est ce que pense Jean-François Loiseau, c'est le président d'Intercéréales et de l'Association nationale de la meunerie française.
C'est la France que l'on veut promouvoir, c'est le travail, c'est l'emploi. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois dans tous les départements. On ne va quand même pas valoriser le modèle des supermarchés, là où il n'y a que du goudron sur les parkings, là où il n'y a que des bâtiments immondes, parce que ce n'est pas le moment de penser à autre chose. Ce n'est pas la baguette le sujet. Bien sûr que la baguette, il ne faut pas qu'elle vaille 4 euros, on est d'accord. Mais moi, je pense que c'est s'attaquer au moment où on veut inscrire les savoir-faire de la fabrication du pain, les savoir-faire de l'agriculture, du travail des collecteurs, des transporteurs, des meuniers qui fabriquent de la farine, vous voyez, la plus qualitative, la plus fine. Maintenant, il y a plein de mélanges. Mais pourquoi elle est dégradée, tout ce travail? Ça ne change rien pour Leclerc. Il se fout du monde quand il dit qu'il passe au pouvoir d'achat des Français.
Autre secteur touché, les fruits et légumes. En 2 ans, leur prix a augmenté de presque 10%, une augmentation majoritairement liée aux aléas climatiques de ces dernières années qui ont perturbé l'offre des produits, mais aussi au coût de l'énergie qui se répercute dans les coûts de production. La Fédération d'associations de défense des familles, Famille Rurale, tire la sonnette d'alarme. Elle a publié hier son observatoire annuel des prix. Une hausse qui pourrait se répercuter directement sur la santé des Français. C'est ce qui inquiète Dominique Marmier, le président de la Fédération. Il appelle les autorités à agir.
Pour une famille de 4 personnes, hein, 2 adultes, un adolescent, un jeune, si on fait des gros efforts, qu'on cible bien ces produits, c'est quand même tout de même un budget de 450 euros par mois pour l'alimentation. Des fruits et des légumes dans ce budget de 450 euros, c'est 150 euros par mois. Donc on voit bien que les familles à revenus modestes, ben, ça pose un véritable problème. Le budget alimentation, il est crucial. Bien manger, c'est un bien essentiel. Donc on appelle le gouvernement à avoir un plan de communication ambitieux, très vaste, et puis aider les familles qui sont dans le besoin avec un chèque de 150 euros par mois pour une famille de 4 personnes, pour que cette dernière puisse effectivement acheter des fruits et des légumes et manger correctement. Parce qu'on pense que manger correctement, puis notamment des fruits et des légumes, ça ne doit pas être réservé uniquement à une partie de la population qui en a les moyens. Chaque citoyen de notre pays devrait être capable de consommer des fruits et des légumes.
L'association Famille Rurale qui demande la mise en place d'un chèque fruits et légumes en 2022 pour ne, je cite, ne pas détourner les familles au budget les plus modestes de ces aliments bons pour la santé. Et l'on reparle de la crise ukrainienne. Les chefs des diplomaties américaines et russes se sont retrouvés à Genève hier pour chercher une issue à ce bras de fer. Ils se sont mis d'accord sur la nécessité d'un dialogue raisonnable. Moscou a assuré ne pas avoir l'intention d'intervenir militairement en Ukraine, malgré le déploiement de soldats et d'armement à la frontière ukrainienne. Les discussions doivent reprendre la semaine prochaine. Alors face au regain de tension de ces derniers jours, faut-il s'inquiéter de la menace d'une possible nouvelle guerre froide ? Pour Caroline Grimaud-Potter, professeure de géopolitique de la Russie, les temps ont changé et le spectre d'un retour du conflit relève plus d'une arme de communication diplomatique qu'autre chose.
Dans le discours, on veut revenir à cette époque-là, à ces tensions-là. On essaye de rassurer les pays membres de l'OTAN, nos alliés, c'est-à-dire les alliés est-européens, de la menace russe. Une menace russe que ces pays-là perçoivent d'une toute autre façon que ne la perçoit la France, par exemple. Dans le discours, on veut faire passer ce message-là de retour à la guerre froide. Pourquoi ? Parce que c'est très facile d'appliquer les vieilles recettes. C'est-à-dire, vous avez le méchant, la Russie, puis le gentil, l'Américain, qui défend quoi ? Un pays libre. L'Ukraine, vous voyez, c'est très facile. C'est des grosses ficelles et ça marche. Alors que c'est bien plus compliqué que cela et c'est bien plus subtil que cela. Et malheureusement, ça ne fait pas trop avancer la compréhension finalement mutuelle de l'Occident et de la Russie.
Carole Grimaud-Potter, professeure de géopolitique de la Russie. Cette fois, c'est officiel. Saint-Irénée a été déclaré docteur de l'Église universelle par le pape François. Comme saint Thomas d'Aquin, saint François de Sales ou sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le Vatican reconnaît donc l'apport théologique du deuxième évêque de Lyon qui a vécu au deuxième siècle après Jésus-Christ. Venu d'Orient, Irénée était un disciple de saint Polycarpe, lui-même disciple de l'apôtre Jean. Toute sa vie, saint Irénée a œuvré pour l'unité de l'Église qui était à l'époque menacée par les mouvements gnostiques qui considéraient leur savoir supérieur à Dieu. Le pape a d'ailleurs ajouté « docteur de l'unité » à sa déclaration sur le nouveau statut d'Irénée. François estime qu'il a été un pont spirituel et théologique entre l'Orient et l'Occident, un sens de l'unité qui peut résonner dans notre société actuelle. C'est ce que nous dit Marie-Laure Chaillet, professeure de théologie à l'Université catholique de Lyon, spécialiste de Saint-Irénée.
La façon dont Irénée transmet l'évangile peut vraiment parler pour aujourd'hui. Et le fait qu'Irénée soit déclaré docteur de l'Église permet de remettre en valeur en fait sa façon de faire de la théologie. Et ça, c'est très éclairant pour nous et nourrissant pour nous aujourd'hui. L'unité, c'est un nœud de sa pensée et une méthode de travail en fait. Donc au niveau de sa conception de l'homme, au niveau de sa conception des relations entre l'homme et Dieu, au niveau de sa conception de la nature créée. Les liens avec Laudato si, par exemple, sont absolument étonnants, mais d'une actualité incroyable. Et je crois que c'est très intéressant pour nous comme méthode, comme sagesse à acquérir aujourd'hui dans la façon de poser les problèmes dans notre société.
Propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne de RCF Lyon. Dénicher des trésors littéraires à la lampe frontale, c'est l'invitation de la médiathèque Bonlieu à Annecy à l'occasion de la Nuit de la Lecture, une opération nationale qui vise à redonner le goût de la lecture aux plus jeunes. Alors ce soir, la médiathèque ouvre ses réserves au grand public, des recoins plongés dans le noir avec de nombreux manuscrits. Les précisions de Raphaël Joly, responsable secteur images et son à la médiathèque Bonlieu.
On a la chance ici à Annecy d'avoir des réserves, c'est-à-dire des locaux qui sont pas accessibles au public à la médiathèque et dans lesquels on conserve des documents qui sont précieux, anciens ou qui ont trait à l'histoire locale également. Alors il peut y avoir pour les plus précieux d'entre eux, ce qu'on appelle les incunables, hein, des livres qui datent des tout débuts de l'imprimerie. Donc on est en 1450. Voilà, donc ça, ce sont des livres très précieux. Il peut y avoir ce qu'on appelle des livres en première édition, donc le premier tirage de certains livres. Après, nous avons également des donations au fur et à mesure des années. Certains collectionneurs font don en fait de leur collection, et là, on les conserve. Et lors de ces visites, on peut les présenter. C'est ce qu'on fait aussi pour les journées du patrimoine.
Propos recueillis par Victorien Duché de RCF Haute-Savoie. Pour connaître tout le programme de la Nuit de la Lecture, rendez-vous sur nuitdelalecture.culture.gouv.fr.
Que de points.
Voilà. Tout à l'heure.
Tout à l'heure, Pauline. On vous retrouve à 8h.